France Culture.
18h précisément sur France Culture, le journal Valentin Grille. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Le Japon, plus conservateur que jamais, la première ministre Sanae Takaishi conforte sa position. Son parti triomphe ce dimanche durant les élections législatives anticipées. Nous serons à Tokyo où elle annonce déjà des échanges avec l'administration Trump. Keir Starmer, lui, n'en sort plus des tourmentes liées à la publication des documents Epstein. Ce soir, c'est son chef de cabinet qui démissionne. Il avait conseillé la nomination d'un ambassadeur britannique à Washington, malgré ses liens connus avec le milliardaire et délinquant sexuel. Enfin, la proposition rejaillit à l'aune de nos paralysies politiques récentes. Faut-il introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives ? Des politiques de tous bords la défendent dans une tribune. C'est un raz-de-marée dans les urnes japonaises. La première ministre Sanae Takaishi a écrasé les élections législatives anticipées ce dimanche et remporté son pari. C'est elle qui avait provoqué le scrutin en janvier pour une campagne éclair de 19 jours à peine. La dirigeante très conservatrice avait reçu le soutien de Donald Trump. Elle estime ce soir que le potentiel d'une alliance avec les États-Unis est sans limite et elle a désormais carte blanche dans l'archipel pour mener sa politique droitière. À Tokyo, Karine Nishimura.
La popularité phénoménale de la première ministre nationaliste Sanae Takaichi s'est traduite par un nombre de voix autant exceptionnel. À lui tout seul, son parti libéral-démocrate remporte plus de la moitié des 465 sièges de la Chambre basse et plus des deux tiers avec son allié, le Parti de l'innovation. Réaction de Sanae Takaichi.
Je voulais absolument l'arbitrage des citoyens pour la politique économique que je m'apprête à changer grandement avec une politique budgétaire expansionniste, des investissements dans la lutte contre les risques et pour la croissance.
La première ministre a promis aux électeurs un Japon fort et prospère avec des engagements très onéreux dont les financements sont loin d'être garantis. Au QG de dépouillement de la principale formation d'opposition qui accuse une cuisante défaite, la soirée a été catastrophique. Yoshihiko Noda, un des responsables de l'alliance centriste réformiste.
Ce sont des résultats très sévères que nous devons accepter avec solennité et sens de l'urgence.
Avec une opposition aussi affaiblie et une majorité aussi écrasante, la première ministre ne devrait pas avoir de difficulté à faire voter son budget, adopter les lois voulues, voire un jour amender la Constitution.
Karine Nishimura à Tokyo pour France Culture. Et un autre parti conservateur triomphe en Asie en ce jour d'élection. En Thaïlande, le parti Bhumjai Thai d'Anutin Chartwirakul devrait remporter 198 des 500 sièges au Parlement. Le parti du peuple réformiste a reconnu sa défaite et ne devrait pas passer le cap des 100 sièges. Le régime des mollahs, plus dur que jamais avec ses opposants, et c'est le prix Nobel de la paix Narges Mohammadi qui en fait les frais, condamné à 6 ans de prison par Téhéran pour rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes selon son avocat. La militante des droits humains était déjà placée en détention en Iran pour activité de propagande. L'affaire Epstein continue de bouleverser les classes politiques européennes. Au Royaume-Uni, Morgan McSweeney a remis sa démission au Premier ministre Keir Starmer. Il était son chef de cabinet et avait poussé pour la nomination au poste d'ambassadeur aux États-Unis de Peter Mandelson, dont on a révélé par la suite d'amples liens avec le milliardaire américain. Explication de Sébastien Logeni.
La nomination de Peter Mandelson était une erreur. J'assume l'entière responsabilité de ce conseil. Voilà les mots du chef de cabinet de Keir Starmer, Morgan McSweeney, le bras droit, l'éminence grise du 10 Downing Street. Il décide donc de faire office de fusible dans ce scandale qui empoisonne le gouvernement britannique depuis des mois. Morgan McSweeney affirme qu'il serait l'unique responsable de la nomination très controversée de Peter Mandelson au poste stratégique d'ambassadeur à Washington juste avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Mandelson, figure historique des travaillistes, surnommé le prince des ténèbres et dont Keir Starmer connaissait au moment de sa nomination ses liens d'amitié avec Jeffrey Epstein. L'ambassadeur a depuis été démis de ses fonctions, mais la révélation la semaine dernière de nouveaux documents du dossier Epstein a relancé l'affaire. Mandelson est soupçonné d'avoir partagé des documents internes du gouvernement avec le prédateur sexuel américain. Une enquête a été ouverte. Keir Starmer a dû s'excuser auprès des victimes du pédocriminel. Pas sûr toutefois que ses excuses et la démission d'un chef de cabinet suffisent à éteindre l'incendie. L'onde de choc menace désormais directement le Premier ministre britannique.
Sébastien Logeni. L'Érythrée a-t-elle choisi la voie de l'escalade ? Le gouvernement de son voisin éthiopien en est en tout cas persuadé. Il appelle Asmara à retirer immédiatement ses troupes de son territoire. L'Érythrée dispose de soldats dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie. Ils avaient appuyé l'armée légitime éthiopienne face aux rebelles indépendantistes en 2020, mais ne se sont pas retirés retirait et soutiendrait depuis des indépendantistes. Le conflit au Tigré a fait au moins 600 000 morts, selon une estimation de l'Union africaine. Le système de santé du Soudan est de nouveau attaqué. Constat de Tedros Ghebreyesus, le patron de l'OMS sur le réseau social X. 30 personnes ont été tuées cette semaine dans la région du Kordofan, au sud de Khartoum. Nouveau stigmate de la guerre civile en cours entre l'armée et les paramilitaires du FSR, les forces de soutien rapide. De François Hollande à Elisabeth Borne, en passant par Marc Fesneau et Marine Tondelier, une soixantaine de personnalités politiques, d'historiens, de politologues, réclament le passage au scrutin proportionnel lors des prochaines élections législatives. Le but, selon eux, débloquer une mécanique politique manifestement grippée, estime-t-il dans un texte publié dans la Tribune dimanche. L'exécutif repousse cette idée pour l'instant, mais selon Marianne Coandet, professeure de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ce mode de scrutin pourrait améliorer le fonctionnement de nos institutions. Elle était invitée ce midi sur France Inter.
Quand on a adopté la constitution de la 5e, on était très divisé là-dessus. De Gaulle a fini par imposer le scrutin majoritaire en se disant que c'est un scrutin injuste, mais qui permet d'assurer la stabilité et qui conduit en fait à la puissance du président. Et en réalité, le scrutin majoritaire sous la 5e favorise un fonctionnement injuste des institutions, l'instabilité et une surpuissance du président qui est très dangereuse en période de montée des extrêmes. Le scrutin majoritaire produit un effet de loupe, c'est-à-dire qu'il grossit l'image d'un groupe, de sorte que vous pouvez avoir un parti ou une coalition de partis qui va avoir tous les pouvoirs pendant 5 ans, alors que les 2/3 de l'opinion sont contre lui. C'est-à-dire qu'avec 1/3 des votes, vous allez pouvoir tout diriger sans aucune responsabilité pratiquement pendant 5 ans, ce qui est très dangereux. Tant qu'on avait 2 grands groupes politiques qui se structuraient, on arrivait effectivement à avoir des majorités qui alternaient au pouvoir. Mais actuellement, on a une division des forces politiques qui fait que ça ne fonctionne plus et que ce scrutin majoritaire n'assure même pas la stabilité, comme c'était d'ailleurs le cas sous la Troisième République. Mmh.
C'est une porte ouverte à la réduction des droits des sans-papiers en matière de santé. Le Premier ministre Sébastien Lecornu vient de signer 2 décrets en cette fin de semaine concernant l'aide médicale d'État qui prend en charge les dépenses des étrangers en situation irrégulière. Le premier renforce la lutte contre la fraude, le second modernise les systèmes informatiques pour permettre l'accès aux données à tous les fonctionnaires. Mais le locataire de Matignon évoque surtout une réforme à venir du panier de soins garanti. Une question de temps, puisqu'il explique simplement qu'à ce stade, les choses ne sont pas prête. Un centenaire d'histoire et de fierté, le Black History Month fête ses 100 ans, un mois de l'histoire des Noirs célébré en février pour coller aux anniversaires de 2 figures abolitionnistes, Abraham Lincoln et Frederick Douglass. L'événement est officiellement reconnu par le gouvernement américain depuis 1976 et au fil des années, d'autres pays l'ont reproduit, du Royaume-Uni à la Côte d'Ivoire. En France, le succès de cette manifestation est encore loin de celui connu outre-Atlantique, mais certains collectifs, Pablo Pérez, tentent bel et bien d'en produire une version française.
C'est le cas de l'association Mémoire et Partage qui a décidé d'adapter ce mois aux particularités françaises. Pour valoriser l'histoire et la culture des diasporas africaines, elle organise notamment des expositions, des projections ou encore des concerts dans plusieurs ports qui ont servi lors de la traite transatlantique, comme Bordeaux et La Rochelle. Cette année, Paris, Bordeaux, Rouen et Poitiers célèbrent ainsi les communautés noires d'Amérique latine et rendent hommage à la chorégraphe péruvienne Victoria Santa Cruz. En outre, des initiatives tentent d'implanter cette fête localement. À l'instar du Comité national de réparation de Martinique ou même du rectorat de Guadeloupe qui a par exemple mis en place un calendrier interactif. En février, les élèves doivent réaliser chaque jour un exercice qui honore une figure importante de la cause noire comme Martin Luther King, Rosa Parks ou Frederick Douglass. En métropole où le mois de février reste peu associé au Black History Month, le choix des dates pour célébrer cette histoire est aussi sujet à débat. Avec ses journées Africana, la chercheuse et militante antiraciste Maboula Soumaoro privilégie, elle, le mois de mai, en l'honneur de la loi Taubira, votée en mai 2001 et qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité.
Pablo Pérez, le compteur est débloqué pour l'équipe de France Olympique aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina. L'argent ce midi pour Mathis Desloges, c'était en skiathlon, c'est la 2e médaille individuelle française de l'histoire en ski de fond, et l'or ensuite pour le relais mixte en biathlon. Athlon mené par Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Lou Jamono et Julia Simon. Le temps de ce lundi, temps couvert sur la majorité du pays. Quelques éclaircies en Alsace et dans les Alpes. Des averses arriveront progressivement par la façade atlantique. Comptez 5 à 8 degrés à Lille, 10 à 13 à Marseille, 11 à 14 à Biarritz. Ce journal a été préparé par Caroline Beneteau et mis en onde par Ludovic Auger.